France Inter.
Et nous sommes le mercredi 17 avril, soyez les bienvenus sur Inter. Xavier Domani, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le Paris Saint-Germain qui tient sa remontada.
Et se qualifie en beauté pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Victoire à Barcelone hier soir. Renversement de situation et doublé de Mbappé. Les Jeux de Paris, J-100, nous serons dans la capitale qui change, s'adapte à l'approche de l'Olympiade. À suivre encore la question des procurations, 100% dématérialisées. Ce n'est pas si simple que ça en a l'air pour les prochaines européennes. La France doit faire plus pour les personnes handicapées. 4 associations dénoncent l'inaction du gouvernement. Et puis de la musique avec le nouvel album de la chanteuse tunisienne Emel Matlouti.
Et les invités du 7-10 ce matin à 7h50. Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. Anne Lauvergeon, ancienne présidente d'Areva, a fait ses débuts à l'Élysée. Elle avait 30 ans. Son bureau jouxtait celui de François Mitterrand. Leurs conversations furent quotidiennes jusqu'à sa mort. Il lui avait fait promettre de les écrire un jour, d'en faire un livre. Le voici, La Promesse, paraît chez Grasset. Anne Lauvergeon est mon invitée à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, grand entretien exceptionnel avec l'écrivain Salman Rushdie qui revient dans un livre événement sur l'attaque qui a failli lui coûter la vie en août 2022. 9h20, Léa Salamé reçoit, elle, le musicien Ibrahim Malouf.
France Inter.
Piqués dans leur orgueil, ils ont donc accompli un exploit. Quart de finale de la Ligue des Champions hier soir en terrain catalan. Les footballeurs du PSG battus à l'aller ont donc renversé la situation face au Barça. Victoire 4-1, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Julien Froment, vous êtes à Barcelone pour Inter. Les Parisiens ont donc déjoué les pronostics.
Hier soir, le stade olympique de Montjuïc avait des airs de Sagrada Familia. Un silence de cathédrale, 4-1 au tableau d'affichage pour le Paris Saint-Germain. Des joueurs qui communient avec les 2700 supporters présents, soulagés, libérés, après un scénario complètement fou.
Ah bah ça fait du bien pour une fois de repartir avec une qualif. On a eu tellement de déconvenues les années précédentes. Entre nous, c'est un pur kiff.
C'est incroyable, t'imagines tout ce qu'on a vécu depuis toutes ces années.
Et il n'y a pas que les supporters qui ont vibré. Le président parisien Nasser El Khelaifi, lui aussi, attendait ce moment depuis longtemps.
Historique pour la club, pour nous, spécialement ici, Barcelone. Le sentiment vraiment très très fier. Je pense que c'est un des meilleurs moments pour moi quand j'y arrivais ici.
Cette remontée fantastique, un exploit au goût de revanche pour Kylian Mbappé, auteur d'un doublé.
On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. Félicitations au groupe. On a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner.
Maintenant, Paris ne peut plus se cacher. La route pour Wembley, où se déroulera la finale, est toute tracée. Mais il faudra dans 15 jours franchir l'obstacle Dortmund.
En demi-finale donc de cette Ligue des Champions de foot, atteinte pour la dernière fois par le PSG il y a 3 ans. Ce soir, les autres quarts, le Bayern Munich reçoit Arsenal et le Real Madrid est à Manchester City. Là, on compte en jours désormais. 100 jours nous séparent des Jeux Olympiques de Paris et de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Hier, la flamme olympique a commencé son périple depuis la Grèce. Elle arrivera sur le sol français le 8 mai et dans la capitale, on s'active déjà pour transformer et adapter la ville, comme vous l'avez constaté, François Ventéjou.
Les transports déjà se mettent à l'heure olympique avec un code couleur rose sur le plan des stations desservant les sites des épreuves. Premier arrêt, Champ de Mars, Tour Eiffel. Derrière la Dame de Fer, un stade éphémère de 13 000 places est en construction. Au milieu des touristes, des Franciliens s'arrêtent pour regarder le chantier.
On voit pratiquement les prémices de l'entrée dans l'arène. On ne voit pas encore les sportifs, mais ça viendra.
Une arène baptisée Stade Tour Eiffel, théâtre des épreuves de beach volley, de cécifoot. Le sable est arrivé et 3 tribunes sur 4 sont assemblées.
C'est un peu encore en travaux, on voit que c'est encore un peu le bordel, mais ça avance tranquillement et j'ai vraiment hâte que ça commence et que tout soit ok pour voir plein d'épreuves.
De l'autre côté de la Seine, le Trocadéro se transforme en parc des champions au rythme des marteaux-piqueurs. Les gradins sont construits au-dessus de la fontaine. C'est ici que les médaillés vont défiler.
La médaille d'or, c'est déjà des frissons, mais en plus avec le cadre, je pense qu'effectivement c'est encore plus grandiose que de faire ça dans un simple parc, dans un stade ou des choses comme ça.
Dernière étape, place de la Concorde, avec les prémices du parc urbain, les 3 premières tribunes prennent forme. Elles vont offrir aux spectateurs une vue exceptionnelle entre l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Grand Palais et l'Assemblée Nationale.
Quelques 7 millions de spectateurs à accueillir entre la fin juillet et la mi-août, et l'ultime mise en vente de billets pour la trentaine de disciplines olympiques, y compris certaines qui affichaient complet. 250 000 nouvelles places disponibles dès aujourd'hui 10h, sans tirage au sort. Premiers arrivés, premiers servis. On sera à 7h30 avec un fan absolu en Bretagne qui a déboursé pas moins de 7 000 euros de billets.
C'est pas mal. Le déficit public au menu Xavier du Conseil des ministres ce matin.
Bercy présente sa trajectoire pour les finances de l'État d'ici à 2027. Objectif, revenir à un déficit inférieur à 3% du PIB contre 5,5% l'an dernier. Reste à savoir comment, sans augmenter les impôts, même ceux des plus riches, le gouvernement s'y refuse. Tandis qu'à Bruxelles, les 27 se réunissent pour un sommet consacré à la compétitivité européenne. Selon un rapport de l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, le décrochage est déjà en cours face à la Chine et aux États-Unis. Angélique Bois, vous êtes notre correspondante. Les États membres veulent désormais agir et dépasser le stade de l'inquiétude.
Le marché de 450 millions de consommateurs, c'est notre bien le plus précieux, rappelle Enrico Letta. Mais il est à la traîne, ajoute-t-il, en rappelant que le PIB américain a augmenté de 60% en 30 ans, deux fois plus vite que celui des Européens. Alors comment soutenir les transitions vertes, numériques, technologiques nécessaires de nos industries? Plusieurs pistes sont sur la table. Alléger les charges administratives des entreprises, PME en tête, cibler les aides publiques sur les secteurs les plus stratégiques, comme l'énergie, les semi-conducteurs ou la défense, ou mieux se prémunir contre les pratiques déloyales de nos concurrents. Dans son rapport, Enrico Letta insiste aussi sur la nécessité de mobiliser l'épargne des Européens, 33 000 milliards d'euros, dont 300 qui chaque année filent aux États-Unis. On finance l'économie américaine, se désole un diplomate. Créer une union de l'épargne et des investissements permettrait de mobiliser les fonds privés, ce qui implique une harmonisation au moins partielle de notre fiscalité, du droit des faillites et une supervision commune. Vaste chantier auquel les 27 ont décidé de s'atteler. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Un sommet européen dont on reparle dans l'édito Écho de Dominique Seux tout à l'heure. Il se poursuivra dans la soirée par un dîner de politique extérieure avec évidemment la guerre en Ukraine et les tensions au Proche-Orient au cœur des discussions à propos de la relation Iran-Israël. Washington indique vouloir imposer de nouvelles sanctions au régime de Téhéran après l'attaque donc contre Israël ce week-end. Outre-Atlantique, le gouvernement canadien, lui, vient de dévoiler de nouvelles taxes dans son budget fédéral. Elles visent directement les plus riches, devraient permettre de dégager 20 milliards de dollars sur 5 ans pour financer le logement et aider les plus jeunes frappés par l'inflation, le tout dans un contexte électoral défavorable pour le Premier ministre Justin Trudeau. Nous étions à Bruxelles à l'instant et à moins de 2 mois des européennes, scrutin à la participation historiquement faible. Avez-vous pensé à donner procuration si nécessaire? Le scrutin se tient le 9 juin en France. On peut donc faire cette démarche jusqu'au 1er mai et désormais totalement en ligne sans passer par la case commissariat ou gendarmerie. C'est la nouveauté cette année grâce à la carte d'identité dématérialisée. Mais en pratique, Manon Derdevet, c'est en fait très compliqué.
Oui, car pour faire sa procuration sans avoir à se déplacer, il faut impérativement avoir une identité numérique certifiée via l'application pour smartphone France Identité. Et c'est là que ça se corse, car pour s'inscrire sur cette plateforme, il faut absolument avoir la nouvelle carte d'identité, format carte bancaire. Sans elle, impossible de faire la démarche 100% en ligne. Mais même si vous avez cette nouvelle carte d'identité, ça continue de se compliquer, puisqu'une fois inscrit sur l'application, comme c'est une première procuration dématérialisée, il faut demander une certification de votre identité numérique et pour ça prendre rendez-vous en mairie avec votre carte, votre téléphone et un QR code généré par l'application. Un agent doit ensuite confirmer que vous êtes bien le titulaire légitime de la carte d'identité rattachée à l'identité numérique. Ce n'est donc qu'après toutes ces vérifications que vous pouvez achever votre procuration pour voter pour ces élections européennes.
Qui auront donc lieu le 9 juin et vous avez jusqu'au 3 mai là pour vous inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas encore le cas.
Il est 7h09, handicap, la France n'a pas progressé sur ce front.
Un an après la condamnation de l'État par le Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe pour violation des droits des personnes handicapées, Alice Cachaner, plusieurs associations dénoncent l'attentisme scandaleux, selon elle, des pouvoirs publics.
En matière d'accompagnement, pas de changement depuis un an. En matière de santé, d'éducation, pas de changement depuis un an. C'est ce que martèlent dans leur communiqué les quatre associations à l'origine de la réclamation devant le Conseil de l'Europe. Un sombre bilan, et ce, malgré la stratégie autisme portée par le gouvernement ou encore l'annonce de 50 000 solutions d'accueil d'ici à 2030.
On déplore vraiment une absence d'une réelle politique du handicap. Il faut que ça soit quelque chose de cohérent.
Elisabeth Lamers de l'UNAPI, l'union qui défend les personnes atteintes de déficience intellectuelle.
Si vous voyez les listes d'attente dans nos associations de l'UNAPI, 50 000 solutions, c'est pas du tout suffisant. C'est vraiment une goutte d'eau sur une pierre chaude, ça s'évapore.
Pour rendre les bâtiments et les transports accessibles aux personnes handicapées, une enveloppe d'1,5 milliard d'euros. Mais là encore, c'est insuffisant, estime Pascale Ribes, présidente d'APF France Handicap.
1,5 milliard, aujourd'hui, on n'en voit pas encore les effets. Et puis, de toute façon, cette enveloppe reste très incertaine au moment où on se parle, du fait des coupes budgétaires. Mais même en soi, elle ne suffirait pas, si vous voulez, à changer la donne au niveau de l'inaccessibilité.
Les associations appellent à un plan Marshall, un changement de paradigme pour enfin assurer les droits des personnes en situation de handicap.
Alice Cachaner, l'hôpital de Cannes tourne au ralenti depuis hier, victime d'une cyberattaque. Les opérations non urgentes ont été reportées, mais les urgences continuent de tourner. L'administratif est en mode dégradé, retour au papier et au stylo.
7h11, tournée record et arnaque record.
Les fans britanniques de Taylor Swift ont perdu plus d'un million d'euros dans des escroqueries aux faux billets de concert. En moyenne, quasi 400 euros par personne. Estimation de la banque Lloyds, qui s'appuie sur les signalements de ses clients. L'image de la star américaine est régulièrement la cible de deepfakes. Dans un tout autre genre, je vais y arriver. Elle est l'une des grandes voix du monde arabe. La chanteuse Emel, révélée notamment au moment de la révolution tunisienne en 2011. Elle sort un nouvel album avec des invités comme Camélia Jordana et des tonalités plus pop qu'avant. Mathieu Culeron.
Voix incontournable de la révolution du jasmin, Emel revient avec un disque qui rend hommage aux femmes dans leur globalité, mais aussi dans leurs différences.
Donc chaque album, j'ai un message, et sur cet album, le message, c'est la sororité, le féminisme. Et c'est pas que en Tunisie ou dans les pays arabes ou quoi, enfin, c'est partout en fait. Et après, j'ai décidé que je voulais travailler avec des femmes. 24 personnes, 24 femmes qui ont défilé sur l'album. Et voilà, ça a duré à peu près 3 ans.
Nar est un album qui marque un véritable tournant dans la carrière de la diva arabe.
On avait déjà des influences Rosalia, Aya Nakamura. On était un peu en mode trap, hip-hop. Moi, j'ai besoin de vivre d'abord. J'ai besoin de vivre la musique.
Artiste toujours engagée, Emel, qui est une star en Turquie, a décidé de jouer au Kurdistan devant 1 million de personnes. Un choix aussi risqué qu'émouvant.
Ma participation chez les Kurdes, je me dis que ça peut-être changer les choses. À peut-être construire une future Turquie multiculturelle, par exemple. Je sais que j'apporte de l'espoir et pour moi, c'est ça le plus précieux.
Le nouvel album d'Emel sur les traces de Emaillé, de Björk ou encore de Rosalia, une musique généreuse et consciente qui lui ouvre les portes du succès à travers le monde.
Emel en concert le 18 mai à Ris-Orangis près de Paris ou bien cet été au Festival du Bout du Monde à Crozon en Bretagne.
Emel dont nous reparlera Alina Fanouco et vendredi. Merci Xavier Demani. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France olympique avec les athlètes qui s'entraînent pour les Jeux.